Sir, pourquoi, à première vue, on sent attiré par quelques personnes et pour d'autres, on sent une répulsion?
Généralement, c'est basé sur des affinités vitales, pas autre chose que ça. Il y a des vibrations vitales qui s'accordent et des vibrations vitales qui ne s'accordent pas. C'est généralement ça, rien d'autre. C'est de la chimie vitale. Il faudrait être dans une conscience beaucoup plus profonde et clairvoyante pour que ça puisse être autre chose. On peut concevoir une perception intérieure basée sur une conscience psychique qui vous fait sentir quels sont ceux qui ont une même aspiration, un même but, et qui peuvent être des compagnons sur la route. Et qui vous rendent clairvoyant aussi pour ceux qui suivent un chemin très différent ou qui ont en eux des forces qui vous sont adverses et qui peuvent vous nuire dans votre développement. Mais pour arriver à une telle perception, il faudrait soi-même être exclusivement occupé de son progrès spirituel et de sa réalisation intégrale. Or, ce n'est pas souvent le cas. Et généralement aussi, quand on est arrivé à cette clairvoyance intérieure, ça ne se traduit pas par une attraction et une répulsion, mais par une connaissance très objective, on pourrait dire. Et une sorte de certitude intérieure qui vous fait agir d'une façon calme et raisonnée, mais pas avec des attractions et des répulsions. Par conséquent, on peut dire d'une façon générale et presque absolue que ceux qui ont des sympathies et des antipathies claires, c'est qu'ils vivent dans une conscience vitale. C'est-à-dire qu'il peut s'y mélanger des affinités d'ordre mental, c'est-à-dire qu'il y a des intelligences qui aiment à avoir des relations d'activité commune. Mais ça aussi, c'est pour des gens qui sont à un niveau beaucoup plus élevé dans l'ordre intellectuel. Et ça se traduit plus aussi par un sens de plus ou moins confortable de relation. Et quelque chose de beaucoup plus tranquille et détaché. On a plaisir à parler avec une certaine personne et d'autres, on n'a aucun attrait. On n'y trouve aucun avantage. C'est un peu plus distant et tranquille, et ça appartient plus au monde de la raison. Mais affinité, mais antipathie et sympathie, ça, c'est clairement dans le monde vital. Eh bien, il y a une alchimie vitale comme il y a une chimie vitale comme il y a une chimie physique. Il y a des corps qui se repoussent, il y a des corps qui s'attirent, il y a des substances qui se combinent, il y en a d'autres qui font des explosions. Et c'est comme ça. Il y a des vibrations vitales qui s'accordent, et qui s'accordent au point que 99 fois sur 100, ces sympathies sont prises pour ce que les hommes appellent de l'amour, et que tout d'un coup ils sentent que « Oh, celui-là, c'est celui que j'attendais, oh, celle-là, c'est celle que je cherchais », ils se précipitent l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'était très superficiel et que ce sont des choses qui ne peuvent pas durer. Mais voilà. Alors, le premier conseil que l'on donne à ceux qui veulent faire le yoga, c'est élevez-vous au-dessus des sympathies et des antipathies. C'est une chose qui n'a pas de réalité profonde et qui peut tout au moins vous conduire vers des difficultés quelquefois assez insurmontables. Vous pouvez abîmer votre vie avec ces choses-là. Et le mieux de ne pas en tenir compte, de se reculer un peu en soi-même et de se demander pour quelles raisons pas très mystérieuses on aime à rencontrer celui-ci, on n'aime pas rencontrer celui-là. Et je dis qu'il y a un moment quand on est exclusivement occupé de sa sadhana, où on peut sentir, mais d'une façon à la fois beaucoup plus subtile et beaucoup plus tranquille, que tel contact est favorable à la sadhana et que tel autre contact est nuisible. Et ça prend toujours une forme beaucoup plus détachée, pour ainsi dire. Et c'est souvent même en contradiction avec les soi-disant attractions et répulsions du vital. Très souvent, ça n'a rien à faire l'un avec. Alors le mieux, c'est de regarder ça d'un peu loin. Et de se sermonner un peu sur la futilité de ces choses. Il existe évidemment des natures qui sont presque foncièrement mauvaises, des êtres qui sont nés méchants et qui aiment à faire du mal. Et logiquement, si on est dans un état naturel, pas perverti, comme sont les animaux, alors à ce point de vue-là, ils sont très supérieurs à l'homme. La perversion commence avec l'humanité. Alors, on se tient à l'écart comme on se tiendrait à l'écart de quelque chose de foncièrement nuisible. Mais heureusement que ce sont des cas qui ne sont pas très fréquents et que ce que l'on rencontre dans la vie, ce sont généralement des natures très mélangées, où il y a une sorte d'équilibre, pour ainsi dire, entre le bon et le mauvais, et où l'on peut s'attendre à avoir des relations à la fois bonnes et mauvaises. Et il n'y a pas de raison pour sentir une antipathie profonde, parce que comme on est soi-même mélangé, le semblable rencontre le semblable. On dit aussi qu'il y a certains individus qui sont comme des vampires et qui, lorsqu'ils s'approchent d'un autre individu, pompe spontanément sa vitalité et son énergie, et que on doit s'en garder comme d'un danger très sérieux. Mais ça aussi, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas très fréquent, et surtout pas d'une façon si totale qu'il faille s'enfuir quand on rencontre une personne. Alors au fond, si on veut se développer dans le sens spirituel, la première chose à faire, c'est de surmonter ses antipathies et ses sympathies, de regarder tout cela avec un sourire.
L'attention inhérente à l'évolution, est-ce que c'est quelque chose d'inconnu? toujours la même chose même. Que cela embrasse finalement l'humanité tout entière ou seulement ses éléments les plus avancés dépendrait de l'intention inhérente à l'évolution elle-même. Pourquoi ça dépendrait?
Pas avec toi, dites-moi ce qu'il dit, je n'aime pas.
Je relis ça, mais...
Oui.
Jusqu'où cela irait-il?
Oui.
Que cela embrasse finalement l'humanité tout entière, ou seulement ses éléments les plus avancés, dépendrait de l'intention inhérente à l'évolution elle-même, de l'intention de la volonté cosmique ou transcendante, quelle qu'elle soit, qui guide les mouvements de l'univers.
Alors qu'est-ce qu'il demande?
Il demande si cette intention est une chose inconnue.
Vous la connaissez, vous?
Mais c'est entendu.
Comment c'est entendu?
L'intention de l'évolution ne peut pas avoir quelque chose qui dénigre que pour le moment ça ne sera pas. C'est ce que vous dites. C'est la fibre.
Je crois qu'il veut dire que cela va de soi, que l'évolution a un but et par conséquent, ça ne peut pas s'arrêter maintenant. C'est ça.
Non, c'est parce que vous avez lu les livres de Sherwin. Mais prenez n'importe qui dans la rue et demandez-lui quelle est l'intention de l'univers et de l'évolution. Et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il n'en sait rien. Naturellement, ceux qui ont lu et étudié les livres de Sri Aurobindo, ils s'imaginent tout au moins en savoir quelque chose. Quand il a écrit ça, il l'a écrit pour... très visiblement, pour des gens qui ne s'occupent pas de yoga et pour des gens qui n'avaient pas lu ses livres. Il l'a écrit pour des gens qui s'occupent d'éducation physique. Alors il s'est mis à leur point de vue, il a exprimé leurs idées et il a essayé de les mener un peu plus loin. Il le place comme pourraient le placer des gens qui n'auraient jamais lu ses livres. Mais vous avez dit, cela va de soi. Il y a beaucoup de gens ici, plusieurs centaines. Si vous leur demandez individuellement, non pas de vous répéter ce qu'ils ont lu, mais ce qu'ils sentent et pensent en eux-mêmes, de quelle est l'intention de l'évolution universelle, et s'il y a une intention à l'évolution universelle, et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent en toute sincérité vous dire c'est comme si c'est comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est évident, c'est ça. Il y en a qui pourront vous citer des passages de Sri Aurobindo, mais ça c'est... Mais autrement. Si vous cessez de penser vous-même, si vous cessez de penser avec ce que vous avez lu, et que vous essayez d'exprimer votre expérience personnelle, vous avez une certitude?
C'est béni.
Hein?
C'est béni.
Vous avez une certitude?
Non,
je ne parle pas des, n'est-ce pas, du résultat de ce que l'on a lu ou de ce que l'on a appris ou tout ça. Je parle du résultat de son expérience personnelle à soi. Quelque chose qui est pour vous évident parce que c'est votre propre vie. C'est votre propre expérience. Vous êtes capable de le dire, vous? Oui? Eh bien, je vous fais mon compliment.
Je dis, malgré moi, ça arrive.
Bon, c'est très bien. Eh bien, j'espère qu'il y en a beaucoup comme vous, c'est tout.
Il y a beaucoup d'éléments qui opposent dans moi, mais tout de même, il y a quelque chose.
Oui, c'est bon, c'est bon. C'est très bien. Alors, je puis vous dire que vous n'avez pas perdu votre temps depuis que vous êtes ici. Bien. Eh bien, nous allons regarder ça au-dedans de nous.